This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Ses parents que l'on ne saurait voir, une série en 4 épisodes signée Agathe Hernier.
Ok. Donc je suis Florence Mégécaz, je suis formatrice. Parfois j'utilise aussi le terme de formatrice père, puisque comme vous avez pu le constater avec mes magnifiques roues roses, je suis également en situation de handicap et je suis la fondatrice de l'association Handiparentalité.
Ça y est, ça marche.
Je vais y revenir tout à l'heure. Et bien ça marche, c'est parfait. Ok.
La voilà, Florence. Celle qui a parlé de la PCH parentalité à Karine et Jackie. Mais elle fait aussi beaucoup d'autres choses. Ici, elle est à Limoges pour parler de l'handiparentalité devant des centaines de travailleurs sociaux. Elle leur résume un peu tout ce que je vous ai raconté dans les épisodes précédents. Des préjugés.
Donc la question de la parentalité des personnes handicapées interroge les normes sociales et la notion de faire famille.
Au SAPPH.
Rajouté au SAPPH de Paris, donc ce service propose un accompagnement de la période préconceptionnelle.
Mais aussi le modèle politique du handicap.
À plusieurs reprises, la France a gardé une vision très médicalisée du handicap, donc c'est le modèle médical.
Florence, sa spécialité, c'est la père aidance. La père aidance, c'est raconter son vécu pour faire progresser les autres. Partager les solutions qu'on a trouvées à celles et ceux qui sont confrontés à la même réalité. Propager ses histoires sur les réseaux sociaux. Mais pas que. C'est aussi former les professionnels à partir de l'expérience des concernés.
Qui peut penser à ça, à part un parent qui est passé, qui s'est pris la tête à dire comment je peux jouer au ballon avec mon enfant ?
Je fais de la sensibilisation dans les classes à la demande de mes enfants.
Ça va dans certains petits détails du quotidien qui ne peuvent pas être pris en charge par les professionnels, je pense.
Et en fait, moi je suis arrivé en me disant, voilà, on s'appelle un tel et un tel, on est les parents de Lumia. Vous avez des questions ? Ça dure 1h30.
Est-ce que quelqu'un voudrait nourrir Vicky et lui donner le biberon à l'aveugle ?
Donc on n'est pas juste des personnes en situation de handicap. La père aidante, c'est bien plus que ça.
Je m'appelle Agathe Hernier et vous écoutez Ces parents que l'on ne saurait voir. Épisode 4, la puissance du collectif.
Hé, hey, stop, tu arrêtes, t'as déjà mangé. Ok. On est mercredi, hein. Je suis en train d'éplucher les pommes de terre, il y a le chat qui miaule.
J'ai retrouvé Florence chez elle. Autour d'une table, dans sa cuisine, Florence me raconte comment elle en est venue à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle est un peu connue dans le milieu de l'handiparentalité. C'est même elle qui a créé le terme. Florence a une ostéogenèse imparfaite, ou la maladie des os de verre. Un jour, une journaliste la contacte pour un reportage sur la maternité, le handicap, un sujet qui n'était vraiment pas traité à l'époque. Le reportage a été un déclencheur.
C'est-à-dire que le fait d'avoir participé à ce reportage, le fait d'avoir partagé finalement mon expérience de vie, ça m'a amené des retours très très positifs et identifié un besoin. C'est-à-dire que quand le reportage a été diffusé sur France 3 dans l'émission Infrarouge en 2009, j'ai reçu des centaines et des centaines de demandes de personnes concernées souhaitant avoir un espace pour eux, pas médicalisé, mais vraiment un espace juste à eux, un petit cocon où on pourrait échanger entre parents et futurs parents parce que on avait ce besoin-là d'être dans cet échange et de pouvoir poser nos questions, sans avoir la peur d'être jugé, partager notre expérience alors que finalement les parents se montraient peut-être assez discrets, enfin n'étaient pas trop dans le paysage, alors qu'ils ont toujours existé, hein, les parents en situation de handicap. Donc on m'a demandé de créer ça, je dis « on », c'est la communauté Andy, hein, si on peut dire ça comme ça. Et à ce moment-là, j'ai créé une association que nous avons appelée Anti-parentalité. Donc c'est à ce moment-là que le terme a été créé. Et donc j'ai créé cette association Anti-parentalité uniquement avec des personnes concernées.
L'association est née en 2010. Elle s'y est investie presque 10 ans de sa vie.
Nous avons énormément travaillé autour de la question de la sensibilisation parce que à l'époque, il n'y avait vraiment rien. Alors, il existait néanmoins le SAPPH de Paris, hein, donc c'était un modèle aussi pour moi, mais on était quand même sur une structure médicalisée. Voilà. Donc moi, j'avais pris le parti de faire autre chose. La spécificité de l'association, c'était d'être uniquement entre personnes concernées. Et nos missions étaient tout de suite, donc cette sensibilisation, rassembler les personnes pour qu'elles puissent échanger entre elles.
Ils ont créé un théâtre forum sur la vie affective et sexuelle et la parentalité pendant 3 ans. Un festival 2 années de suite, un magazine, créé un lieu d'accueil, le Centre Papillon, pour accompagner les parents avec une équipe de professionnels mais aussi de personnes en situation de handicap. Finalement, le centre a fini par fermer ses portes, en partie à cause de la période Covid. À une plus petite échelle, on peut aussi faire bouger les lignes. Marion, par exemple, sa stratégie, c'est de faire un peu de réseau.
Le mot était un peu bizarre, mais les mamans, et même les papas, on a les numéros, on se connaît, puis à force les gens, ah Marion, en fait, t'as pas vu, mais devant l'école, il y a écrit qu'il y a, il y a des poux, il faut que tu fasses un shampoing à ta fille. Ah bah oui, c'était écrit sur la porte, mais je peux pas lire. Et du coup, à force de m'être présentée, bah, les gens viennent plutôt vers moi, simplement. Je sais que je ne l'ai pas fait, mais je sais qu'il y a des parents qui se mettent exprès parents d'élèves pour rentrer dans l'école, participer aux discussions et donc être là en tant qu'aveugle. Et, parce que du coup, la cécité, ça peut faire peur à certains. Il y a des gens qui sont en difficulté devant un aveugle, ils ne savent pas comment ça marche, alors qu'en fait, il n'y a pas de mode d'emploi particulier. Et il y a des gens qui sont gênés, mais même, c'est comme pour une personne, je pense, qui a un fauteuil roulant ou qui est trisomique. Je pense que tout le monde comprendra ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que certains se mettent parents d'élèves, carrément.
C'est ce qu'a fait Nourdine. Il est malvoyant, habite à Bègle, à côté de Bordeaux, et sa femme est non-voyante.
Je suis représentant de parents d'élèves sur les 2 écoles des filles, donc la maternelle et l'élémentaire. Donc c'est assez sportif. Je fais de la sensibilisation dans les classes à la demande de mes enfants. Ça peut m'arriver d'intervenir dans la classe de mes enfants à leur demande. La première année, la grande n'a pas voulu, quand elle était en CP. Et en CE1, elle a voulu parce qu'elle a vu que les questions des autres gamins sur notre handicap étaient trop prenantes pour elle. Elle le vivait clairement comme du harcèlement. Et donc, on a intervenu. Ça a été un peu compliqué de mettre ça en place avec le maître qui pensait que ça allait durer un quart d'heure. Il nous a dit, vous allez vous présenter, vous dire votre handicap, l'expliquer, puis vous repartez. Et en fait, moi, je suis arrivé en me disant, voilà, on s'appelle un tel et un tel, on est les parents de Lumia. Vous avez des questions? Ça a duré 1h30. Ça a super bien marché, et ça a bien marché ne serait-ce que pour ma fille qui a plus trop eu de questions derrière, et du coup les copines et copains de ma fille viennent nous voir directement quand ils ont des questions. Et je fais de la sensibilisation aussi lors des kermesses, on improvise avec ma compagne un jeu dans le noir, enfin de reconnaître des objets, etc. Enfin, on trouve des techniques.
Et ce que font les parents, et ce que j'ai fait aussi, c'est d'aller dans la classe en début d'année, alors encore une fois, c'est pas tous les parents qui le font, peut-être plus en sixième, là, mais j'allais tous les ans, j'allais dans la classe de ma fille. En début d'année, j'allais voir le prof ou la prof, donc ça pouvait être autour du chien guide d'expliquer aux enfants, ils me posent des questions, mais comment tu fais pour te laver? Comment tu fais pour manger? Comment tu fais pour rentrer chez toi? Avoir des questions d'enfants, quoi. Ça faisait plaisir à ma fille, qui était gratifiée de « Ouais, il est trop beau ton chien et tout », enfin, il y a une forme de fierté, donc ça contrebalance la misère du handicap, on va dire. Et en plus, quelque part, ça la délestait de certaines questions qu'elle avait par ailleurs à l'école. « Ta mère, elle fait comment ?» Donc ça, c'est une stratégie que je retrouve chez énormément de parents.
Alors, le groupe Facebook Parents Aveugles, du coup, a été fondé, je ne sais même plus quand j'ai fait, je crois qu'il y a 8 ou 9 ans.
Nourdine a créé un groupe Facebook sur lequel les parents se donnent des conseils et s'entraident dans la vie quotidienne.
À la base, c'est un groupe en fait qui était une mailing list sur Yahoo, qui s'appelait Parents Aveugles, qui a été fondé notamment par un copain à moi qui s'appelle Yannick. Et en fait, je suis parti du constat qu'on était quand même pas mal de jeunes qui arrivaient à l'âge de la parentalité et qu'on était pas mal à l'époque à utiliser Facebook. Et c'est un groupe où chacun s'entraide. Et là où j'ai été assez surpris, c'est qu'on a aussi des gens qui viennent du Maroc, du Canada, de Suisse, de Belgique, de Côte d'Ivoire, qui sont aussi sur ce groupe-là. Et c'est assez intéressant justement de par l'apport des réponses qu'on peut donner, à pas donner des réponses qui sont parfois un peu trop occidentalisées. Et aussi essayer de comprendre dans quel contexte vit l'autre personne, etc. quoi.
J'ai envie de dire, il y a des combines, des astuces, la créativité même que certains parents ont et qui partagent. Quoi. Je sais pas, c'est tout bête, mais je donne un exemple vraiment... Des fois, c'est pas important, mais en fait, je me rappelle d'un échange sur Facebook d'une maman qui voulait avoir jouer au ballon avec son petit de 2 ans. Et elle se demandait comment elle pouvait faire, parce que le ballon, en fait, elle le trouve jamais. Et elle se demandait si elle devait acheter un ballon spécialisé, avec des gros lots dedans, des ballons... un ballon à 50 euros, quoi, pour tout ça, pour faire 2-3 jeux avec son fils. Donc. Puis il y a un papa qui disait, tu peux l'enrouler, le mettre dans un sac plastique, et puis en fait... Tu vas l'entendre davantage quand le ballon il va rebondir, il va rouler, tu entendras le plastique. Donc tu pourras le localiser auditivement. C'est vraiment un truc bidon, mais j'ai essayé, ça marche trop bien. Voilà, bon, c'est pas un truc qui a changé ma vie. Mais qui peut penser à ça, à part un parent qui s'est pris la tête à dire comment je peux jouer au ballon avec mon enfant ? Ça va dans certains petits détails du quotidien qui peuvent pas être pris en charge par les professionnels, je pense.
Mais il y a besoin de père aidant, c'est dans le sens où les professionnels peuvent pas forcément comprendre notre ressenti. Le ressenti d'un parent qui se sent paumé quand il va dans un grand parc avec son enfant où il sait plus où il est, ça peut être assez déstabilisant et assez vite. Et donc du coup, effectivement, pour les parents qui ont leur premier enfant, on a très vite des questions sur quel type de parc vous utilisez, où est-ce que vous allez avec vos enfants, comment vous faites pour qu'ils jouent, etc., etc. Et ça aide aussi à externaliser ses angoisses sans être jugé. Parce que finalement, les angoisses que les parents donnent, pour beaucoup, on les a eues. Et en fait, c'est des angoisses de parents lambda. Mais ça peut être jugé comme étant des angoisses liées au handicap, alors qu'en réalité, y a plein de parents que je connais qui voient très bien et qui n'ont pas de handicap, qui n'aiment pas amener leur gamin dans des parcs où tout est ouvert. Avec 48 000 personnes, parce que ça peut être hyper angoissant.
Florence Mégécaze a mis de côté son engagement associatif pour se consacrer à la formation des professionnels de santé. Travailler entre personnes concernées pour accompagner les parents en situation de handicap, c'est essentiel. Mais si les professionnels, eux, ne sont pas formés, ça ne peut pas fonctionner. On se heurte à un mur, pour reprendre ses propres mots. J'ai suivi l'une de ses formations à Limoges.
Donc voici Vicky. Je travaille avec elle pour des ateliers avec les parents. Vicky m'accompagne en formation chaque mois auprès de différentes formations, promotions. Ça peut être des éducateurs de jeunes enfants, assistants sociaux, TISF. Ça peut être sage-femme, future sage-femme, accompagnante périnatale. Voilà. Et de ce côté-là, je vais vous faire passer Vicky. Est-ce que vous pouvez faire le tour ? Voilà les impressions.
Un vrai poids de bébé.
Un vrai poids de bébé. Alors, vous diriez quel poids ?
4 kilos.
Mais c'est intéressant aussi tout de même de sous-peser le bébé pour se dire, ok, quand on est parent en situation de handicap, qu'on a peut-être un peu moins de force, qu'on est aveugle, comment ça se passe ?
Vicky est mise à disposition pour que les professionnels puissent mettre en pratique plusieurs choses, comme les écharpes de portage.
Quand on est aveugle, pourquoi on utiliserait le portage ?
Les réponses sont encore un peu timides.
Pour ressentir corporellement l'inconfort de son bébé.
Un contact.
Oui.
Autre que vite. Ah,
c'est bon. Peut-être
c'est sécurisant d'avoir un
oui, voilà.
Donc finalement, le portage a des bénéfices, plusieurs bénéfices pour le parent aveugle aussi. Pour le parent sourd.
Pour chaque handicap, il y a un porte-bébé adapté.
On a aussi un autre préformé, un marsupi. Lui, il a des scratchs. Ok. Donc, on a des difficultés de préhension, on a une dextérité faible au niveau des membres supérieurs, on peut utiliser des scratchs. Et voilà. Ok ?
Oui.
Est-ce que quelqu'un veut essayer ?
Maintenant, à leur tour. Il vaut mieux qu'ils aient testé eux-mêmes les astuces avant de pouvoir les recommander.
Ouais, on peut peut-être remonter un peu le tissu sur la tête. Voilà. On est pas mal. Hein ? Chouette, hein ?
Ok.
Voilà. Donc on voit tout l'intérêt des astuces. Là, on a parlé portage, là on va parler biberon, on a parlé aussi allaitement, mais ça peut être sur plein de gestes du quotidien. Est-ce que quelqu'un voudrait nourrir Vicky et lui donner le biberon à l'aveugle ?
Une personne se jette à l'eau, mais personne ne sait vraiment comment s'y prendre.
On est dans la paire aidante là aujourd'hui, donc on vient soutenir cette maman. Elle doit trouver des astuces, donc charge mentale, stress, elle y met toute son énergie, bébé est en train de pleurer à côté, elle a envie qu'on la soutienne, hein, d'accord ? Donc déjà elle sait que 3 cuillères pour faire 90, donc elle peut déjà mettre en poudre, en fermant les yeux.
Tout le monde se creuse les méninges et trouve finalement l'idée de cranter le biberon.
Donc il faut une seringue avec un repère sur le piston, il fallait demander.
Ah, ouais.
Donc ça y est, on a trouvé la solution.
Et moi, j'ai trouvé aussi ce
pharmacie, 6 euros.
Oui, on a...
Et après, il faut une personne qui voit pour faire l'embauche.
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Cette expérience transposable à d'autres parents, donc on est tout à fait dans la paire aidance. Ça, c'est important parce que d'autres parents ont eu cette difficulté, se sont galérés et ont trouvé des solutions. Donc ça peut se faire, ce partage d'expérience entre pairs. Ça peut être aussi dans SAPPH ou une autre structure qui s'appelle autrement, mais en tout cas qui fait de la guidance parentale. Ça peut être une puéricultrice formée, ça peut être une accompagnante périnatale formée, ça peut être des professionnels du secteur social.
Quand j'étais chez Florence, on a discuté de la place de la paire aidance dans le paysage politique aujourd'hui. La reconnaissance et la légitimité qu'on lui a accordée. Sa réponse, c'est en partie ce qui explique son retrait du milieu associatif.
Ce qui se passe actuellement, c'est qu'avec le déploiement des centres ressources Intimagir, des SAPPH et autres structures qui ne s'appellent pas forcément du même nom, mais en tout cas ces autres structures d'accompagnement, ben, aujourd'hui, moi, je m'interroge. Quelle est notre place aujourd'hui en tant que personne concernée ? Parce que de manière politique, on nous le dit, la paire aidance a toute sa place, on développe des projets, on exige dans les CEPOM que la paire aidance soit actée, on crée des expérimentations comme le projet EPOP dont j'ai participé activement en tant que formatrice.
Le projet EPOP, c'est une démarche expérimentale nationale qui vise à systématiser le recours à des intervenants pairs dans le secteur médico-social.
On crée tout ça. On crée aussi de l'espoir, on crée une avancée par rapport à ces questions-là de paire aidance. Mais j'ai l'impression, de mon point de vue, qu'on est avant tout sur des questions politiques d'abord, alors que nous, on est prêts. On est prêts à agir, on est prêts à être là, parce qu'on n'est pas juste des personnes en situation de handicap pour accompagner d'autres personnes en situation de handicap. On est des personnes en situation de handicap avec cette part de réflexivité, avec ce travail mené autour de notre propre expérience. Et surtout, nous avons aussi différentes cordes à notre arc. On monte en compétences, on se forme, on s'informe, on a une veille professionnelle. Donc, on n'est pas juste des personnes en situation de handicap. La paire aidance, c'est bien plus que ça. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'au niveau des politiques, on nous dit « c'est bien, allez ». La paire aidance, elle est là. Mais en vrai, qui est payé ? Qui est payé en tant que paire aidant ? Très peu de personnes. Qui est sollicité ? Qui peut facturer ? Qui a des missions pérennes ? Bah, très peu. Donc, ma place aujourd'hui, moi, je m'interroge sur ma place en tant que paire aidante, paire émulatrice, je dirais, parce que quand on parle de handicap moteur, on n'est plus sur de la paire émulation. Moi, je m'interroge sur ma place de paire émulatrice et je me dis que je suis complètement légitime dans ma place de formatrice parce que j'ai réussi. J'ai réussi à maintenant à être reconnue comme formatrice. Parfois, j'utilise le terme de formatrice pair, mais peu importe. Hein. En tout cas, je suis reconnue dans ma place de formatrice, mais dans ma place de pair aidante, j'ai encore des doutes. J'ai l'impression que pour l'instant, on est plutôt sur des questions politique et que sur le terrain, c'est pas encore une légitimité, une reconnaissance. Et moi, j'ai pas envie juste de cocher des cases. J'ai envie d'avoir une vraie place, d'être reconnue en tant que professionnelle. Et quand je dis je parle au nom de beaucoup de personnes en situation de handicap qui font de la père aidance, pas forcément au sujet de la parentalité, mais sur plein d'autres sujets. Et c'est des compétences à solliciter. C'est une complémentarité avec les professionnels. Et c'est important de nos jours de travailler comme ça. C'est pas juste un changement de paradigme politique. C'est une vraie réalité de terrain et c'est essentiel de travailler tous ensemble.
Repenser la parentalité, ou plutôt les parentalités. C'est ce que les personnes que j'ai rencontrées ont fait en filigrane tout au long de cette série. Pour sortir des normes traditionnelles qui enferment et stigmatisent les parents en situation de handicap, mais aussi tous ceux en dehors des schémas classiques. Pour mieux réfléchir à comment venir en aide aux familles qui en ont parfois besoin. Pour cesser de juger ces formes d'entraide aussi. Pour enfin, ouvrir collectivement les yeux sur la diversité des parentalités. Merci pour votre écoute. Merci également à toutes les personnes qui m'ont accordé du temps pour cette série. À Marion, à Stéphanie, à Karine et Jackie, à Nourdine, à Drina Candilis, à Charlotte Puiseux, à Bertrand Copin, à Malika Boubaker, à toute l'équipe du SAPPH de La Réole et à Florence Mégécaze.
Vous venez d'écouter le quatrième et dernier épisode de Ces parents que l'on ne saurait voir, une série signée Agathe Hernier pour Podcasting. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.